Voilà, bonjour tout le monde. Ça fait 7 semaines que nous sommes lyonnais et très heureux de l'être. Je propose 3 courtes lectures bibliques ce matin. Les références seront affichées sur l'écran. La première lecture se trouve au psaume 18. Le psaume 18. Le psaume 18, premier verset. Le psaume 18, premier verset. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, afin qu'il eût délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel. » La deuxième lecture est dans une épître de Paul. Il s'agit de l'épître aux Galates. Galates chapitre 5. Et encore, on lit le premier verset. Galates 5. Verset 1. Paul écrit aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la dernière lecture pour le moment, l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas. Prions. Seigneur, merci pour l'aventure de la foi qui commence dès notre conversion. Merci pour la joie de te connaître et de vivre avec toi et pour toi. Merci aussi car tu ne nous laisses pas tout seuls. Tu nous donnes ta parole, ton esprit. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, à aller plus loin sur ce chemin avec toi, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'avais envie de faire un voyage avec vous, et me faire un voyage dans une ville que vous connaissez. Il s'agit de la ville de Lyon. Parce que vous connaissez la ville de Lyon, et moi je suis en train de découvrir la ville de Lyon. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est m'arrêter avec vous dans le métro, ou parfois dans le tramway, ou dans un bus. Et j'ai choisi quelques arrêts bien précis pour des raisons bien précises. Et le premier arrêt que j'aimerais faire avec vous, c'est l'arrêt Mont-Rocher. Vous savez pourquoi Mont-Rocher? Parce que nous avons lu l'Éternel et Mont-Rocher. Alors, il paraît que ça ne s'écrit pas de la même manière. Je ne sais pas si c'est le roi David qui s'est trompé, ou si c'est TCL qui s'est trompé avec un T à la fin, mais si on reste à Mont-Rocher avec un R à la fin, la vie chrétienne commence avec le roc, le rocher. Et David a pu dire, Seigneur, malgré tous mes ennemis, tu es mon rocher. Je suis stable, bien établi, sur toi, grâce à toi. Et quelles que soient les tempêtes, quels que soient les orages, quels que soient les ouragans, quels que soient les tsunamis, Seigneur, ma vie est bâtie sur toi. Tu es mon rocher. Et la vie chrétienne commence là, les pieds sur le roc. Et si nous pouvons dire, l'Éternel, tu es mon rocher, eh bien, quelles que soient nos circonstances, Dieu peut nous aider à tenir bon si nous restons bien stables sur le roc. L'Éternel est mon rocher. Jésus, à la fin de Matthieu 7, il compare celui qui écoute et qui met en pratique sa parole à quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Et si nous écoutons la parole, et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, parce que c'est pas la même chose, hein, on peut écouter et ne pas mettre en pratique. Mais si nous écoutons, si nous mettons en pratique, Jésus dit, vous êtes des hommes, des femmes, des jeunes qui sont sages, parce que vous construisez sur le roc. Ça, c'est le premier arrêt. On va aller un peu plus loin. On va s'arrêter maintenant à la station que beaucoup de gens aiment. Ça s'appelle la station liberté. Ah, la liberté. C'est formidable d'être libre. Le chrétien est libre. Il croit à la liberté. Il prêche la liberté. C'est même dans la devise d'un certain pays, me semble-t-il. Liberté. Eh bien, est-ce que le chrétien est vraiment libre? Une question qui a deux réponses. Une réponse est oui, et l'autre réponse est non. Oui, on est libre de l'esclavage, et Paul le dit aux Galates. Mais non, je ne suis pas libre pour faire tout ce que je veux. Mais je suis libre pour faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Il m'a libéré de mes chaînes, libre de nos chaînes, c'est un chant d'exo, nous marchons vers toi. Ta grâce souveraine affermit nos pas. Nous sommes libres, oui, mais nous sommes libres pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Vous avez remarqué qu'au début de plusieurs épîtres, Paul se présente en disant « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Et le mot « serviteur », c'est le mot « esclave ». Il écrit aux chrétiens, je suis Paul, je crois à la liberté et je suis un esclave. Mais je suis un esclave libre, parce que j'ai choisi qui je veux suivre. Il y a quelques années, un auteur américain, John MacArthur, a rédigé un livre et il voulait parler de ce thème de la liberté. Et il a appelé son livre « Esclave » pour montrer que les chrétiens sont des esclaves. Et l'éditeur, qui avait déjà publié plusieurs dizaines de ses livres, lui a dit, « Monsieur MacArthur, il faut changer le titre de ce livre, sinon je ne peux pas le publier, parce qu'aucun chrétien va acheter un livre esclave. » Et MacArthur a dit, « Ah bah, moi je veux trouver n'importe quel autre éditeur qui veut bien publier mon livre. Je refuse de changer le titre, parce que le chrétien est un esclave de Jésus. Un esclave libre, mais un esclave. » Et l'éditeur, vous savez ce qu'il a décidé? Bon, puisqu'il s'appelle MacArthur, ça se vend bien. Allez, je publie le livre. Et sur le plan financier, et du coup sur le plan spirituel, l'éditeur n'a eu aucun regret. Nous sommes esclaves, nous sommes libres pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il nous a délivrés des chaînes, de ce carcan qui nous empêchait de marcher avec lui. Je propose un troisième arrêt. Cette gare est un arrêt que beaucoup de chrétiens aiment. Cet arrêt s'appelle la gare de Mon Plaisir. Mon Plaisir. C'est toujours tentant de s'arrêter à Mon Plaisir. C'est toujours tentant de se faire plaisir. Et de vivre pour ses propres plaisirs. Eh bien, puisque je suis libre, je peux faire ce que je veux, ce qui me fait plaisir, ce qui me plaît. Mais encore, est-ce que le chrétien est sur terre pour se faire plaisir? David dit dans un psaume que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te fassent plaisir, Seigneur mon rocher et mon libérateur. C'est curieux qu'il parle des rochers libérateurs dans ce psaume où il est question de faire plaisir. Mais David savait qu'il était là pour faire plaisir, non pas lui-même, mais tout d'abord au Seigneur. Donc si jamais vous êtes obligé
d'arrêter à mon plaisir, dites-vous bien que vous n'êtes pas là pour se faire plaisir. Mais, de temps en temps, si vous vous arrêtez à la gare de mon plaisir, vous allez voir de temps en temps des chrétiens sur le quai de la gare en train de se faire plaisir. Mais ne descendez pas vous amuser avec eux. Parce que s'ils passent leur temps à se faire plaisir, eh bien, ils vont perdre leur temps. Et ils vont perdre beaucoup de choses en même temps. Et un chrétien qui passe son temps à se faire plaisir va se trouver sur une voie de garage, sans jeu de mots exprès, n'est-ce pas? Mais il y a des chrétiens qui passent le temps à se faire plaisir et qui ne font rien pour le Seigneur et qui ont des comptes à rendre au Seigneur. Mon plaisir, si vous vous arrêtez là tout à l'heure après le culte, partez vite et rentrez chez vous. Un autre arrêt. Mais je ne sais plus si c'est un arrêt de gare ou de tramway, mais c'est la gare Sainte-Blandine. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Sainte-Blandine. J'espère que vous connaissez tous l'histoire de Sainte-Blandine, même si nous, on ne dit pas qu'elle était une sainte. Mais il y a des choses fausses et des choses vraies dites à son sujet. Mais Blandine était une fille esclave au IIe siècle qui a été arrêtée pour sa foi. Et on lui a dit, si tu dis César est Dieu, et si tu ne dis plus Jésus est Dieu, on va te libérer. Mais si tu dis Jésus est Dieu, alors les lions vont se faire plaisir. Parce qu'ils vont te manger. Et Blandine, tout en étant une jeune fille, elle a refusé de renier sa foi. Et on l'a mis dans les arènes, ici à Lyon, qu'on peut visiter, je crois bien, les ruines, parce que d'ailleurs je les ai visitées il y a quelques temps, eh bien, on l'a mis dans les arènes pour que les lions viennent la manger. Et vous connaissez peut-être des suites de l'histoire, mais les lions ne l'ont même pas léché. Peut-être que c'était pas lavé ce jour-là et ça sentait pas bon. Mais en tout cas, Dieu l'a protégé de ces lions. Et si vous alliez au spectacle Son et Lumière au Puy du Fou, il retrace cette histoire. Que les lions viennent manger des chrétiens et ils les laissent tranquilles. Il y a des faux chrétiens dans les arènes qui jouent comme des vrais chrétiens et il y a des vrais lions et les lions ne les touchent pas. Donc ça c'est au Puy du Fou. Mais Blandine, donc, elle n'a pas été mangée par les lions, donc on lui a redit, mais renie sa foi. Et elle a tenu bon et on l'a mis dans les arènes avec un taureau. Et ce taureau l'a sérieusement blessé et puis un gladiateur est venu pour l'achever. Mais elle a été fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2, 10. Dieu lui a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Aujourd'hui, nous avons besoin, dans nos églises, de filles et de gars comme Blandine. Prêts à dire, Seigneur, tu es mon maître, je refuse tout compromis. Je refuse d'avoir un pied dans un monde, un pied dans l'autre monde. Seigneur, je veux être 100% pour toi. Blandine n'a pas vécu longtemps depuis qu'il avait dit ça. Mais on va le voir un jour. Et Blandine est un exemple à suivre. La gare Sainte-Blandine. Il y a un autre saint qui a une gare ici. Il s'agit de Saint-André. La gare Saint-André, mais j'ai parlé il y a quelques mois d'André, donc je ne veux pas trop reparler d'André, le disciple de Jésus-Christ, le frère de Pierre, mais je répète tout simplement que André est connu parce que il a emmené son frère au Christ, et c'est très difficile d'être témoin dans sa propre famille. Mais André a témoigné à Simon-Pierre, et Simon-Pierre s'est converti. Il a emmené des non-juifs à Christ. Donc, il était à la fois missionnaire auprès des non-juifs, parce qu'il était juif lui-même, et il était aussi missionnaire auprès des juifs, Pierre et d'autres personnes qui se sont converties. Une autre gare, c'est la sixième, hein, si vous comptez, c'est la gare Ambroise-Paré. C'est pas loin d'ici. Il est le boulevard Ambroise-Paré, qui n'est pas loin d'ici. La Ambroise-Paré, c'est quelqu'un qui est né à Laval, en Mayenne. l'année où Jean Calvin fêtait ses 1 an. Donc vous allez tous me dire, ah oui David, ça c'était en 1510. Il y a, c'était pas hier. Hein. Alors Ambroise Paré, bien qu'il soit né au XVIe siècle, il est décédé à l'âge de 80 ans. Quel exploit, il y a 500 ans, de mourir, de vivre si longtemps. En tout cas, une raison, c'est qu'il était médecin, chirurgien de surcroît. Et on l'appelle aujourd'hui le père de la chirurgie moderne. Je ne vais pas raconter tout ce qu'il a fait dans le monde de la médecine, mais c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur et qui avait l'habitude de dire « je pense » du mot « penser » P-A-N-S-E et Dieu guérit. Je pense et Dieu guérit. Quelqu'un d'autre que vous connaissez dit « je pense donc je suis » mais c'est « penser » d'un autre mot. En tout cas, « je pense et Dieu guérit ». Et il avait l'habitude de soigner tous ceux qui avaient un besoin. Il n'était pas quelqu'un qui considérait l'apparence extérieure des gens. Il voyait quelqu'un dans le besoin, quel que soit son état, sa couleur, sa langue, sa nationalité, son statut social, il les soignait. À tel point qu'un jour, Charles XI, le roi, était malade. Et le roi vient voir Paré pour dire, il dit, je compte sur toi de me soigner mieux que tu soignes les pauvres. Et Ambroise Paré a dit, ah, c'est impossible. Et le roi a dit, comment ça, c'est impossible? Et Ambroise Paré dit, parce que je soigne les pauvres comme s'ils étaient des rois. Il ne respectait pas la personne. Il voyait quelqu'un et il fonçait pour l'aider. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur et la main du Seigneur était sur lui le 24 août 1572 parce qu'il se trouvait à Paris la nuit de la Saint-Barthélemy où des milliers de chrétiens ont été massacrés dans leur sommeil. Mais Dieu avait sa main sur Ambroise Paré et il est décédé des années après cette nuit de massacre. Il était un disciple fidèle, parfois discret. Et l'ambiance politique à l'époque obligeait certains chrétiens d'être discrets dans leur témoignage. Mais c'était un disciple béni par le Seigneur. On va s'arrêter un peu plus loin. C'est peut-être une autre ligne de métro. Et c'est la station de la de reconnaissance. J'espère que vous vous arrêtez tous les jours à reconnaissance. Quelqu'un m'a dit il y a des années, David, on ne doit jamais laisser passer 24 heures sans remercier Jésus pour la croix. On le remercie le dimanche matin. J'espère que tu remercies le Seigneur tous les jours pour sa croix, pour son tombeau vide, pour le salut qu'il nous a apporté. Mais on doit remercier le Seigneur pour une multitude de choses. Soyons reconnaissants. Paul dit aux Thessaloniciens, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyons reconnaissants. Quelqu'un a dit une fois, si on remerciait le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous donnait, on n'aurait pas le temps pour se plaindre. C'est peut-être vrai, hein? Mais soyons reconnaissants et prenons l'habitude de se promener dans la gare de reconnaissance. Là, autant on ne doit pas s'arrêter à la gare de mon plaisir, on peut passer la journée entière dans la gare de reconnaissance. Merci Seigneur pour la santé, merci pour mes habits, merci pour ma maison, merci pour mon appart, merci pour le repas d'hier, merci pour tous les repas de la semaine prochaine. Il y a tant de sujets de reconnaissance. Un autre endroit où on pourrait s'arrêter, c'est le numéro 8. Il y a combien de gares de métro à Lyon? Je ne vais pas les énumérer toutes, rassurez-vous, sinon on est là vous ne serez pas reconnaissants. Et on sera là jusqu'à la semaine prochaine. Mais une autre gare, c'est la gare sans souci. Ah, est-ce qu'on est des chrétiens sans souci? Alors, je crois, pour être honnête, je ne connais aucun chrétien qui est sans souci. On a tous, par moment, des soucis. Et si on dit aux non-chrétiens, ah, si vous vous convertissez, vous n'aurez aucun souci. Parfois, j'entends ça sur des sites internet et je me dis, mais c'est un faux évangile. C'est un mensonge. Si quelqu'un vous a dit, convertissez-vous, vous n'aurez plus de soucis, c'est un mensonge. Parfois, on a des soucis après la conversion qu'on n'avait pas avant. Parce qu'on est converti. Parce qu'on veut être fidèle envers le Seigneur. Mais dans le cas sans souci, bien sûr, S-A-N-S, non pas C-E-N-T, hein, parfois on a 100, 101 soucis. Mais dans la garde sans souci, on peut toujours dire, Seigneur, je me décharge sur toi. Je dépose à tes pieds mes soucis, ce qui me tracasse, mes inquiétudes. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus à 3 reprises à la fin de Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas. Mais on a des soucis, on a des sujets qui nous pèsent. Et parfois, on peut les déposer une fois pour toutes au pied du Seigneur. Et parfois, on doit les déposer au pied du Seigneur plusieurs fois dans la même journée. Si c'est le cas, n'hésitons pas. Parce que le Seigneur ne va jamais nous dire, « Oh, écoute, j'en ai marre de toi, David. Tu me rabâches les mêmes choses. » Mais quand on a un souci, un fardeau, prenons le temps de le déposer au pied de notre maître. Il nous entend. Et il va nous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5,8. D'ailleurs, au sujet des soucis, parfois nos soucis nous rendent pessimistes. Alors, je ne sais pas si j'ai donné la définition des pessimistes et optimistes il y a quelque temps, selon Winston Churchill. Si je l'ai fait, ce sera sur le site. En tout cas, si je ne l'ai pas fait, demandez-moi tout à l'heure. Mais en tout cas, on parle de pessimisme et des soucis. J'ai vu un titre d'un hebdomadaire la semaine dernière. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué ça. J'ai oublié quel hebdomadaire, Le Point, L'Express ou un truc comme ça. Mais le grand titre était « Les Français, champions du monde du pessimisme ». Alors, j'aurais bien aimé acheter et relire cet article pour voir ce qui est marqué dedans. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, c'est pas moi qui vais vous dire, hein. Mais on peut être champion du monde du pessimisme à cause des soucis. Mais avec le Seigneur, on peut surmonter l'état pessimiste, être hyper soucieux par la prière et par la foi en Christ. Je termine avec la dernière citation. Il y en a d'autres, je pourrais continuer, mais j'ai terminé avec la dernière que je voulais souligner. Et il s'agit de la station, encore une station pas loin d'ici. Vous pouvez deviner peut-être? Lumière. Ah, lumière. Pourquoi cette station s'appelle Lumière? Est-ce que c'est parce que les frères Lumière sont nés à Lyon? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont morts à Lyon? Non. C'est parce que le premier film a été tourné à Lyon. Les frères Lumière. Bien sûr, ça m'introduit au sujet de la lumière dans la Bible. La Bible parle beaucoup de lumière. Depuis Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, du premier au dernier chapitre de la Bible, on parle beaucoup de lumière. Dans l'évangile de Jean, pardon, la lumière est un des thèmes centraux de cet évangile, la lumière du monde. Et vous savez bien que Jésus dit, je suis la lumière du monde, Jean 8. Mais parfois, les chrétiens oublient que dans Matthieu 5, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est bien de dire à Jésus, a dit, je suis la lumière du monde. Mais Jésus dit aussi, en s'adressant à nous, vous êtes la lumière du monde. Alors, je me pose la question parfois, en ce qui me concerne, jusqu'à quel point est-ce que je brille? Jusqu'à quel point est-ce que des gens voient que je suis une petite lumière dans ce monde? Il y a tant de gens qui vivent dans les ténèbres, il y a tant de gens qui choisissent et qui aiment les ténèbres. Mais Jésus nous a dit, Matthieu 5, bah, vous êtes la lumière du monde. Ne cachez pas la lumière, mais faites briller. Faites voir que vous avez la lumière en vous et que vous devez briller pour le Seigneur. La Bible parle aussi de la Bible, la parole que mettons la lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Et si nous voulons briller pour le Seigneur, nous devons aussi plonger le regard dans ce livre. Je suis parfois étonné, sinon choqué, de constater que parfois des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années, parfois chrétiens depuis des siècles, ou des décennies on va dire, qui lisent très, très, très peu la parole de Dieu. Ah ben j'ai déjà lu une fois David, il y a 25 ans. Je connais la Bible. Mais on doit lire tous les jours. Et se laisser imprégner par ce message. Et si on se laisse imprégner par, si on laisse la lumière de la parole de Dieu briller sur nous, elle va briller à travers de nous, vers les autres. Si nous lisons la parole de Dieu, eh bien Dieu nous éclaire. Si nous avons l'habitude d'avoir une Bible fermée à la maison, eh bien parfois dans la journée, on va aller droit dans le mur, sans lumière, tête baissée, les yeux fermés. Mais grâce à la lumière qui vient de la parole, Dieu nous aide à vivre dans la lumière, car Dieu nous éclaire, et parfois nous aurons le privilège d'éclairer d'autres personnes, grâce à sa lumière. Alors prenons l'habitude, les amis, de lire sa parole, de laisser éclairer par elle, et de briller pour le Seigneur. Je crois que c'est de Jésus qui a dit au sujet de Jean-Baptiste, il brillait et il brûlait dans ce monde. Briller et brûler. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, de temps en temps, allons à la station lumière et briller pour Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions car tu nous as libérés de l'esclavage. Tu nous as affranchis et nous te prions de nous aider à vivre comme des chrétiens qui connaissent la liberté en Christ et qui aiment vivre comme des esclaves de Jésus-Christ. Car vivre pour toi, soumis à ta volonté, c'est la meilleure vie qui existe. Aide-nous à aimer cette vie-là. Aide-nous à aimer ta lumière. Aide-nous à vouloir partager ta lumière. Aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous à chercher à te faire plaisir. Et pardonne-nous lorsque nous pensons toujours à nous-mêmes. Aide-nous à chercher ta volonté et non pas notre volonté. Aide-nous, Seigneur, à suivre les exemples historiques que tu nous donnes, d'hommes et de femmes qui étaient courageux, qui ont souffert pour la foi. Aide-nous à être courageux, même si on doit souffrir parfois. Aide-nous, Seigneur, à avoir la force qui vient de toi. Et merci car tu es notre forteresse, tu es notre sauveur, tu es notre rocher. Nous te bénissons pour cela. Amen.